Zoom Écologie, tous les jeudis soirs de 20h30 à 21h30 sur Fréquence Paris Pluriel.
Arpentaire, une émission du Zoom Écologie, tous les deuxièmes jeudis du mois, sur Radio Fréquence Paris Pluriel.
Il y a en France 800 000 ouvriers agricoles, dont au moins 20% sont des personnes étrangères, selon l'INSEE. Ce chiffre est certainement sous-estimé puisqu'il ne prend pas en compte les personnes avec des galères de papier, qui ne sont pas déclarées et qui représentent la grande majorité des ouvriers agricoles étrangers. Leur travail, il est à la fois essentiel et complètement invisible. Les conditions dans lesquelles ils et elles travaillent sont peu documentées, au-delà de quelques cas très médiatiques de traite d'êtres humains. Ce sont des secteurs où les ouvriers sont très peu syndiqués. Alors l'association A4 a décidé de mener sa propre enquête. Les personnes concernées qui ont vécu dans leur corps cette réalité sont les mieux à même de rendre visibles ces situations et de mener la lutte pour des conditions de travail dignes pour toutes et tous. Parce que prendre le point de vue des exploités, c'est aussi défendre les droits de tous les ouvriers agricoles et interroger notre système alimentaire dans son ensemble. Autour de ce plateau se trouvent les protagonistes de cette enquête. Habib, Paul, Sembala, Idriss, Tariq et Justine sont au micro. Tiffaine et Gaston sont à la technique. Et quant à moi, je m'appelle Lisa. Bonjour à tous.
Bonjour.
Commençons donc par présenter l'association. Habib, qu'est-ce que c'est A4 ?
Bonjour tout le monde. A4, c'est une association accueil agricole et artisanale qui est née en 2021. La jeunesse, elle a eu lieu dans le Saint-Saint-Denis. En fait, on se trouvait, nous, les membres de le collectif, on se connaît de la lutte logement, lutte papier, et lutte écologie. En voyant, en fait, il y a beaucoup de personnes qui arrivent ici en France, qui étaient à la base travailleurs soit agricoles, soit artisanales. Les personnes qui arrivent ici, ils se trouvent en fait bloqués dans les métiers, qu'on dit métiers attention, en tout cas BTP, restauration, ménage. Fin de leur vie, voilà, ils sont pas appris grand-chose. En plus ça, ils finissent casser le dos et tomber malade. Voilà. D'autre côté, le milieu agricole qui a perdu beaucoup de personnes qui transmettent les fermes, par exemple les agriculteurs qui partent à la retraite. Les fermes, elles partent soit à l'agro-industriel, soit à la friche. Donc voilà, on se trouvait autour de cette constat à la ZAD de Notre-Dame-de-Lande pour parler sur la question de le collectif qui est fondé à cette époque-là qui s'appelle Reprise de Terre. Et derrière cette constat qui est dit, oui, le milieu agricole, il perd beaucoup de personnes. Et de notre côté aussi, il y a beaucoup de personnes qui arrivent ici, qui ont de savoir. Aussi avec le changement climatique, on voit aussi le climat, en tout cas, il change. Nous, on disait, il y a beaucoup de personnes qui arrivent ici, comment on peut relier la ville et la campagne en sachant en fait il y a des difficultés de le doux con, quoi. Après, on a commencé par des voyages enquête. On a organisé des séjours pour aller rencontrer le milieu agricole. Une semaine, par exemple, on part en voiture, 15 personnes, 14, ça dépend, rencontrer des agricoles et discuter leurs problématiques, soit au niveau du travail, soit au niveau de la mobilité, soit au niveau de la santé, pour comprendre plus comment on peut collaborer de égal à égal, quoi. Parce que aussi, nous, on ne veut pas le charité de tout, quoi. L'ASSO, il porte trois objectifs, des formations, un stage, travail agricole, en tout cas plus tard en installation pour des personnes dans les bonnes conditions et de conditions dignes, quoi. Ça, c'est les trois choses qu'on porte. En même temps, il y a pas mal d'accompagnements juridiques qu'on fait.
Moi, c'est Sembala. Et Voyage d'enquête, c'est l'un des points qui nous a permis d'arriver à créer encore plus des liens pour que des gens puissent vraiment être autonomes et puissent encore à la fois défendre à leurs droits et connaître le droit. Là, je parle de Voyage d'enquête à la fois. Ça nous a permis aussi de créer des groupes locaux. On a 5 groupes locaux, si je me trompe, Île-de-France, Grenoble, Lannion, Lyon, Anjou, c'est un groupe qui est en train de créer. Centrafrique aussi, on a en discussion avec Montagne et Limousin. Et on travaille avec les gens de Tarnac. Et après ça, le groupe local, on a essayé de voir aussi ça puisse être vraiment porté par personnes concernées. Il y a des personnes de soutien aussi, mais comment on peut collaborer tous, qui travaillent ensemble, mais ça puisse porter par personnes concernées, qui puissent vraiment amener cette bâton ensemble.
Merci à tous les deux. L'enquête qui va nous occuper dans l'émission, elle a été menée à Lannion, en Bretagne, en février 2024. Comment est-ce que l'idée de mener l'enquête à Lannion, elle a émergé et pourquoi à Lannion, Idriss?
Là, mes collègues qui vous parlent de voyage enquête, à partir du voyage enquête, il y a des groupes qui s'étaient constitués direct après les voyages enquête. Parmi ces groupes, il y a le groupe Enquête Lannion. Et du coup, on était plusieurs personnes qui travaillent dans les domaines agricoles. Et du coup, il y a beaucoup de témoignages qui étaient amenés par les gens. Et c'est à partir de là qu'on a dit, mais en fait, c'est mieux qu'on commence par Lannion.
Tariq?
C'était aussi dans le cadre d'un voyage enquête qui se déroulait à Lannion, où on a eu l'occasion de rencontrer des personnes dans les centres de demandeurs d'asile, et où on a très vite compris qu'on interdisait un peu aux gens de travailler dans d'autres métiers que le milieu agricole, et qui en même temps n'ouvrait pas de droits en tant que tel, parce qu'on signait des déclarations préalables à l'embauche, mais qui ne permettaient pas d'être reconnus comme des preuves de présence en France, et même de la potentialité d'obtenir un titre de séjour.
Comment est-ce que vous vous êtes organisé pour cette enquête? Comment est-ce que ça a commencé? Il y avait une semaine de formation, je crois.
Oui, l'enquête, elle s'est réfléchie de manière, en fait, on dit, on va le faire l'enquête avec des personnes elles-mêmes qui sont concernées par le parcours de travail de nos champs. Donc, on a dit, en fait, on a besoin de formateurs et formatrices qui peuvent accompagner les personnes sur, par exemple, sur le son, comment on peut enregistrer le son, comment on peut même outiller, en fait, des personnes pour qu'elles puissent, en fait, faire le taf sur leur terrain, quoi. Aussi, il y a deux personnes qui travaillent sur l'enquête. Il y a Anna et Mathieu de la Revisette qui travaillent sur cette enquête, qui vient pour former des gens sur le gris de questions.
Ce que je vais rajouter aussi, en fait, pourquoi on veut s'utiliser, parce qu'en fait, à plusieurs fois, quand ils viennent, si c'est des chercheurs ou des étudiantes qui viennent pour faire des enquêtes, en fait, souvent, c'est découpé. En fait, c'est toujours, c'est pas tout dit. Du coup, c'est pour ça qu'on avait dit, en fait, on aimerait bien qu'on soit outillé nous-mêmes pour qu'on puisse montrer vraiment la réalité. Parce que c'est toujours, c'est que c'est caché, que les gens, ils n'ont pas envie de dire que... Des fois, c'est des insultes. Et directement, en fait, quand on revient pour un enregistrement ou un journal qui était on nous interviewait, que le demandait, en fait, il y a des insultes ici, pourquoi vous n'avez pas dit? Ils vont dire, ah oui, mais en fait, là, parce que c'est très violent, du coup, on ne va pas les mettre, en fait, dans les journaux. En fait, là, on a envie vraiment de montrer tout ce qui se passe, en fait.
Je pense sur la question aussi des outils, ce qui était aussi pertinent de constater, c'est que dans le groupe de départ de Lannion, et notamment des gens qui étaient participants dans l'enquête, tout le monde n'était pas convaincu initialement de ces conditions de travail désastreuses. Et je pense notamment là dans les personnes qui continuaient à bosser pendant le moment de l'enquête en plein champ, et qui eux-mêmes avaient un discours très... comment dire, indulgent vis-à-vis des patrons en disant « mais vous savez, c'est dur, et en même temps, nanana », alors qu'eux-mêmes, dans une situation de galère de papier et n'ayant pas la possibilité via cette activité professionnelle de pouvoir se régulariser. Et donc on voyait qu'aussi, la dynamique de l'enquête, elle était aussi là pour faire basculer ces discours-là, parce qu'au bout de deux semaines, les gens n'avaient pas du tout le même discours, et avec en fait aussi une prise de conscience des rapports d'exploitation qui s'exercent dans le travail agricole, surtout quand on ne connaît pas ses droits et qu'en fait on en est coupé, clairement.
Parmi les ressources, on peut aussi parler de personnes, bon, c'est un peu bizarre, mais de personnes ressources en tout cas, notamment Ibrahima Diallo, qui est sociologue, qui a été très présent pour le contexte de l'enquête. Est-ce qu'on peut écouter Ibrahima Diallo présenter son terrain, pour nous aussi apprendre un peu à le connaître?
Je m'appelle Ibrahima Diallo, je suis docteur en sociologie de l'Université de Poitiers. J'ai travaillé sur trois terrains, près de Poitiers, dans les champs de Molon et puis dans les zones de conditionnement de Molon, mais aussi en Champagne, dans les vignes, en Bretagne, dans les champs de coco, mais aussi dans les campings bretons.
C'est dans les lieux d'hébergement?
Exactement, ce sont des campings qui se trouvent à proximité des exploitations agricoles. C'est surtout les saisonniers non motorisés, les saisonniers subsahariens qui ne sont pas de la région et qui arrivent de Paris, des pays comme l'Italie, l'Espagne, ou bien des villes comme Poitiers, donc qui arrivent en Bretagne, sont obligés de trouver une place dans ces campings-là avant même de trouver un emploi saisonnier. Oui, j'ai fait une typologie des travailleurs agricoles saisonniers que j'ai rencontrés en Bretagne. C'est des travailleurs qui peuvent se différer selon plusieurs critères. On peut les différencier selon leur origine, selon origine géographique. Pardon. Origine géographique, j'ai rencontré des travailleurs agricoles saisonniers issus d'Europe de l'Est, des Bulgares et des Polonais, mais aussi des autochtones. Beaucoup de retraités, des jeunes chômeurs, ça peut être des étudiants qui profitent de leur congé universitaire pour venir travailler dans les champs. La dernière catégorie, ce sont les travailleurs agricoles saisonniers issus d'Afrique. Plus particulièrement, moi, je me suis intéressé aux saisonniers issus d'Afrique subsaharienne. Là aussi, il convient de découper, de décomposer même cette catégorie de saisonniers en trois sous-catégories. Pardon. On a des travailleurs qui possède un visa long séjour qui réside en Europe. On a des étudiants, mais aussi on a des sans-papiers. Mais parmi ceux qui possèdent un titre de travail visa long séjour qui réside en Europe, on a ceux qui arrivent des pays comme l'Italie et l'Espagne, mais aussi ceux qui résident en France, qu'on peut considérer, bon, c'est une catégorie qu'on utilise, mais bon, qui ne rend pas fidèlement compte de toute la réalité de cette migration, catégorie de saisonniers qu'on peut appeler des migrants économiques. Je mets beaucoup de guillemets en migrants économiques parce que tous ne sont pas arrivés en France pour des raisons économiques. Certains sont arrivés pour d'autres raisons, comme des raisons sportives, par exemple.
J'imagine que ça ne concerne pas que les haricots.
En Bretagne, oui, surtout les haricots, mais aussi les petits pois.
Okay.
Mon enquête reposait sur une enquête à caractère ethnographique. Du coup, je travaille moi-même dans les champs de coco. Beaucoup d'observations participantes, donc sont les saisonniers que j'ai rencontrés, exercent ce type d'emploi saisonnier, ramasseur de haricots coco.
Paul ?
Dans cet entretien qu'on a fait avec Ibrahima Diallo, ce qui est important, je pense, ce qui ressort, c'est qu'il a fait une enquête ethnographique de terrain hyper précise et poussée en Bretagne. Voilà, c'est vraiment un travail de chercheur hyper important, mais pour nous, ça donnait un cadre plus général, qui était que, en fait, tout le travail agricole, dans l'élevage, mais aussi dans le maraîchage, dans la récolte, etc., en fait, c'est un travail dans lequel il y a une division raciale du travail. Donc ça donnait vraiment pour nous le cadre général de travail, même si nous, on n'a pas, dans notre enquête, une approche sociologique, une enquête de chercheurs.
Mais d'ailleurs, dans quoi est-ce que cette enquête militante s'insère historiquement et politiquement ?
Oui, alors ce qui est important de rappeler, je pense, c'est qu'en général, quand on parle d'enquête, on ne parle pas du tout d'enquête militante. Les trois grands types d'enquêtes, c'est des enquêtes qui sont faites par la police et la justice pour rechercher des coupables. C'est des enquêtes qui sont faites par des chercheurs en sciences sociales pour établir l'objectivité des faits ou des rapports sociaux ou des structures. Et c'est des enquêtes faites par des journalistes. Ces trois types d'enquêtes qui sont évidemment très différentes, mais qui partagent un point commun hyper important, qui est que les personnes qui font l'enquête, elles sont différentes des personnes sur lesquelles on enquête. Il y a les personnes sur lesquelles on enquête, elles participent pas à l'enquête. Elles la font pas, elles la fabriquent pas, quoi. Et en fait, nous, l'enquête qu'on pratique, qu'on essaie de pratiquer, là, elle s'inscrit dans une histoire très différente de ce qu'on peut appeler l'enquête militante ou de l'enquête ouvrière. L'enquête ouvrière, elle naît vers les années 1830-1840, en Belgique, en France et en Allemagne, quand justement des ouvriers s'organisent en disant qu'ils veulent plus que ce soit d'autres gens qui fassent des enquêtes sur eux-mêmes. Ils veulent produire eux-mêmes leurs connaissances sur les conditions de travail. Et pourquoi ils veulent dire que c'est à eux de le faire? Bah parce qu'ils pensent que c'est ceux qui travaillent qui connaissent le mieux le travail et les conditions de travail. Pas ceux qui viennent une fois de temps en temps pour venir voir depuis l'extérieur. Donc en fait, l'enquête militante, c'est un type d'enquête qui vise à la fois à produire des connaissances et à organiser les travailleurs politiquement. Et ça aussi, c'est un truc qui, pour nous, est hyper important. C'est on va produire des connaissances, mais en faisant ça, on va favoriser l'accès aux droits. On va permettre l'organisation des travailleurs pour qu'ils puissent se constituer en association, en collectif, pour qu'ils puissent lutter, etc. Toi aussi, tu te fais exploiter dans l'usine d'à côté. Bah, alors peut-être on va faire un syndicat, parce qu'on a les mêmes conditions de travail. On n'a pas le même patron, mais en fait, on a exactement les mêmes problèmes. Ou alors, à l'inverse, on croyait qu'on bossait dans des entreprises différentes, mais en fait, on a le même patron. Donc, on va pouvoir produire des connaissances sur les conditions de travail. Et c'est la condition pour s'organiser politiquement sur les lieux de travail, à partir des lieux de travail. Ça, c'est repris beaucoup après dans les années 60-70, notamment en Italie, autour du courant ouvrier qu'on appelle l'opéraïsme, qui est un mouvement marxiste ouvrier autonome, qui va reprendre vraiment cette idée d'enquête ouvrière en ajoutant quelque chose d'autre. C'est seuls les ouvriers, les travailleurs, qui peuvent expliquer leurs conditions de travail. C'est eux seuls qui peuvent s'auto-organiser à partir de ces enquêtes. Mais en plus, ils vont faire deux choses en faisant ces enquêtes. Ils vont se transformer subjectivement. Parce qu'en fait, quand tu t'es mis à discuter avec les gens, t'es plus tout à fait la même personne. Tu vas te radicaliser, te former politiquement, etc. Et puis, tu peux identifier quels sont les points de fragilité de l'adversaire. Et c'est aussi là où tu peux voir, en faisant cette enquête, où est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà le plus prêts à s'organiser, où est-ce qu'il y a des gens qui sont les plus combatifs, quoi. Et donc ça, cette pratique de l'enquête militante, qui vient de l'enquête ouvrière, elle se retrouve dans plein de collectifs aujourd'hui, par exemple le Côte des Traces dans le sud de la France, le collectif de défense des travailleurs saisonniers, la plateforme d'enquête militante en région parisienne, Strike, ou un groupe aussi hyper important qui est Enquête Critique. Pour A4, faire cette enquête sur les conditions de travail agricole, c'était dire, regardez, il y a plein de trucs qui sont invisibles, genre tout le système agroalimentaire, il repose sur le travail de personnes qui est complètement invisibilisé, qui n'ont aucun droit, et il n'y a quasiment pas de connaissances qui sont produites là-dessus, ni de la police, parce qu'ils s'en foutent, ni des journalistes, parce que, en fait, c'est très compliqué de faire des enquêtes là-dessus. Et que, voilà, il y a le travail de pas mal de quelques chercheurs qui est très important, comme le travail d'Ibrahima Diallo, évidemment. Mais nous, c'était encore cette idée de se dire, ah bah voilà, mais nous, on pense que c'est les personnes concernées qui vont pouvoir produire ces connaissances et savoir qu'est-ce qui se passe dans le monde agricole. Et du coup, juste, voilà, ça c'est un truc, moi, je suis blanc, je suis dans A4, je peux pas vraiment faire je peux participer à cette enquête, j'y participe évidemment, mais quand même il y a un truc qui est de se dire qu'on n'a pas tous les mêmes expériences, parce qu'on n'a pas eu tous les mêmes histoires, on n'est pas tous à la même place dans les rapports sociaux, et que ça change des choses, que ce soit des gens qui ont ces expériences-là, qui fassent ces enquêtes-là, quoi.
Eh bien, plongeons dans ce que vous avez visibilisé depuis ce point de vue situé que tu as bien défini. Parmi les résultats de cette enquête apparaissent d'abord la réalité des conditions de travail dans divers secteurs agricoles. Et on peut peut-être commencer par écouter Richard nous parler d'ostréiculture.
Les huîtres,
c'est difficile, mais moi je pense que ça allait faire mal de lui, franchement. Ce qu'on fait là, franchement, même 1700 mètres, 2000 euros, c'est mal payé.
Ah, c'est pas assez bon.
On fait des robots pour faire des huîtres. Franchement, en fait, c'est un truc de fou. Quand c'est dit les huîtres, moi, je me dis, du coup, les genoux, c'est comme ça. En fait, les genoux, c'est peut-être 6h jusqu'à 17h ou 8h jusqu'à 17h30. Tu sais, moi, je la sais, peut-être. Du coup, le matin, on se change. Après, bon, chaque
fois. Il y a des salles pour se changer.
Ouais. On s'y investit, on fait y investir.
Et c'est quoi? C'est des équipements qui vous sont prêtés par...
Ouais, c'est un tablier. Ouais, je ne peux pas te salir, je fais des tabliers pour ne pas te salir.
C'est le patron qui achète ça,
ouais.
pour tout le monde.
C'est une combinaison, en fait, pas pour...
Quand tu rentres dans l'eau, quoi. Qu'est-ce que tu fais? Tu lèves les sacs, tu mets, ou il y a des choses à faire?
Si on fait que j'échauffe, donc. Soit on lève les sacs, ou soit on entache les sacs, en fait. Et puis souvent, en fait, quand on voit un mort, en fait, on lève. Je suis enlève, on attache à la même temps, en fait. Puis, du coup, on peut partir à 13h, puis on est à 18h, à 17h. Du coup, on fait des tables, on fait dans l'eau. Quand on vient, on détache les sacs, là, comme ça, on les tire, comme ça, là. On fait des pouces, on fait du pouce. C'est incroyable. En fait, il faut voir, en fait, pour... Je ne sais pas expliquer, en fait. Je peux pas expliquer comme ça. Je n'ai pas trouvé les mots, en fait, pour expliquer, en fait. Il faut vivre ça, comme on dit. Il faut vivre ça pour voir. Il faut vivre ça, en fait.
Nihalis m'a dit, il y a deux équipes. Il y a une équipe qui travaille, qui vend toujours de l'énergie.
Non.
Il y a une équipe qui est là pour trier.
Ça dépend, en fait, qu'on n'a pas beaucoup de choses, en fait. Peut-être à 3 ou à 4 pour ça, mais peut-être à 3 tables, en bas. Ou, voilà. Donc, quand il y a des grosses marées, il faut que c'est une grosse marée qu'on voit tous ensemble, là, c'est bon. Donc, 12, 13, 14. Avec deux chalons, en fait, avec deux chalons. Du coup, on va, en fait, on met encore sur les 12, 13, 14. Et puis voilà, quoi, puis on taffe. Du coup, on fait la vase et tout, parce que tu colles, du coup, tu peux poser 16 kilos. et tu manges la vase avec ça. Tu manges la vase avec ça, avec l'eau, tout ça. Tu poses sur la table, tu as ta suture.
Et tout à l'heure, tu disais, vous savez pas l'emploi du temps avant. Enfin, c'est un peu au jour le jour. Comment ça se passe pour l'emploi du temps?
Ouais, c'est au jour. C'est ça, on fait quoi? Chaque jour, en fait, il y a un truc qui vient. On fait le patron, lui, il sait pas ce qu'on va faire, en fait.
Mais du coup, tu connais quand même à l'avance tes horaires, les jours où tu travailles et les jours où tu travailles.
On fait là, comme ça, en fait, je sais, en fait, lundi, en fait, on commence à 7 heures.
On vient d'écouter Richard nous parler d'ostréiculture. Avant de réagir à cet extrait, je vous propose qu'on se fasse une petite pause musicale et qu'on écoute Lampedusa de Toumani et Sidiki Diabaté.
On a écouté donc Richard nous parler d'ostréiculture. Qu'est-ce que ça vous évoque, ce type de conditions de travail ?
Que premièrement, en fait, que l'ostréiculture fait partie entièrement de la dynamique de l'agro-industrie au vu des conditions de travail et de la pénibilité que ça représente, et qui finalement, et notamment je pense au début de l'enquête, nous ont fait beaucoup de parallèles avec aussi ce qu'on retrouve dans le... ce qu'on pensait n'être réservé que finalement que... aux ménages et aux BTP, finalement, avec un système d'intérim, de conditions de travail très précaires, avec des horaires qui sont donnés que les jours d'avant, et que finalement, tout est fait un peu au lance-pierre comme ça, et que finalement, on voit que c'est des pratiques qui sont partagées aussi dans d'autres secteurs, notamment pour l'ostréiculture.
Aussi, c'est un travail, comme elle a dit mon collègue, c'est très dur, mais voilà. Du coup, les gens, ils ont, quand je vois Noël, je vois bien qu'en fait, les gens, ils sont contents d'avoir mangé les huîtres et tout, mais en fait, ils ne savent pas comment c'était produit. Ils ne savent pas derrière, en fait, il y a beaucoup de personnes qui ont sans papier, qu'ils ont utilisé là derrière, en fait, pour produire les huîtres, quoi.
Richard, il parle beaucoup du froid et de ce que c'est que d'aller récupérer des huîtres au mois de décembre en pleine mer. Il y a une autre personne que vous avez rencontrée qui s'appelle Salé, qui lui parle plutôt de la chaleur dans les serres de tomates et de vanille.
Tu commences le matin parce que le vanille, il fait chaud un peu. Mmh. Tu coupes jusqu'à midi et après l'après-midi, tu fais nos tomates.
Mmh. Ouais. Et tu disais il faisait chaud, c'est parce que dans les serres, il faisait très chaud l'été?
Oui, dans les serres, il fait chaud, oui.
Comme au pays ou pire qu'au pays?
Après, c'est différent parce que le pays, c'est des chaleurs un peu nature. Le soleil, c'est pas la même chose parce qu'il y a de vent. Mais au serre, c'est du chauffage plutôt. Et avec le soleil en plus, du coup, le doux, ça fait bien chaud quand même. Mais ça dépend. Pendant l'été, par exemple, quand il fait vraiment chaud, on commence de 6 heures du matin, mais on termine à 14 heures. Du coup, là, nous avons un pause 30 minutes pour manger, et après on continue. 14 heures, on s'arrête, on rentre à la maison.
D'accord. Et vous étiez combien à travailler dedans?
On est beaucoup, parce que c'est un très grand serre.
Il y en a une ou il y en a plusieurs?
Il y en a trois serres. Il y a un serre de vanille avec des concombres et deux grandes serres de tomates. de plusieurs types de tomates différents, mais sont toutes de la même serre. Deux, c'est un très grand serre. Hein. On peut dire une cinquantaine, 60, quoi.
Ah ouais, il y a personne qui travaille dedans.
Ouais. Oui, on se ramasse les tomates, on met dans un carton, qui est un chariot, de 70 cartons. Le carton, c'est pour faire 5 kilos. Mm-hmm. Du coup, tu rentres avec un chariot de l'oreille. Du coup, tu coupes, tu ramasses le tomate, tu ramasses avec un
sécateur.
Oui, c'est un sécateur. Du coup, une fois que tu as rempli tes chariots, tu le mets à côté, tu prends une autre, tu fais la même chose. Une fois on a fini à ramasser, on commence à faire l'effeuillage. On feuille le tomate, ouais. De le serre. Si on a fini ça, deux fois on fait le raf sur le reste de la tomate, quoi, en fait.
Et vous utilisiez des produits pour les tomates ou jamais?
Produits pour les tomates, non.
Comme pour tuer les insectes ou... Jamais?
Il y a de l'alcool, mais ça c'est pour juste pour la main, quoi. Tu mets ça à la main, et après tu reviens au travail.
Ok.
Et sinon, il y avait un produit, un pot Baudra. Baudra, tu le mets sur l'oreille, quoi. Sur l'oreille. Ouais, c'était juste ça. Mais après,
la poudre.
Ouais, un peu de poudre, poudre jaune, un peu, je sais pas si c'est pourquoi, mais...
Ils t'ont dit c'était pourquoi?
Non, j'ai pas demandé non plus.
Ok. Et tu le posais avec la main directement?
Non, tu prends avec un seau, il y a un seau qui a beaucoup de trop au-dessus, du coup tu fais comme ça. Mais il y a un seul personne qui fait ça, je pense, deux fois par saison, un truc comme ça. On met pas tout le temps. Voilà, après, je sais pas si mieux autre produit de l'eau, je sais pas, mais voilà.
Déjà, Salah, c'est un Soudanais, en fait, du coup, qui vient de pays qui est au moins 40 degrés. Si la personne qui vient de pays qui fait au moins 40 degrés, qui te dit, en fait, c'est chaud, imagine cette position, en fait. Ça montre bien, en fait, c'est une condition qui est très pénible. Mais les gens, qui n'ont pas de choix, de quoi ils vont aller parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, quoi. Il n'y a pas de choix de voir comment améliorer. En fait, ils ne sont même pas formés de... En fait, c'est quoi les conditions de travail et quel matériel qu'elle utilise et c'est quoi les gestes. Et aussi, il y a plein des produits chimiques. Des fois, ils parlent des produits chimiques, ils ne savent même pas qu'est-ce que c'est. En fait, ils disent, en fait, ouais, des fois, on l'utilise deux fois par an. Et du coup, ça veut dire qu'en fait, pourquoi que deux fois par an? C'est déjà, en fait, c'est un produit qui serait dangereux. Voilà, même il y a un moment qui parle aussi de... ah ouais, en fait, ça pue, en fait, dans la serre. Je sais pas, en fait, ça pue, tomate qui pue, en fait, ça, c'est un truc qui est vraiment, qui se questionne, quoi, en fait, comment la tomate qui pue. Ça veut dire qu'en fait, il y a des produits chimiques, si on le demande qu'est-ce que c'est, en fait, non, elle, ça pue, c'est tout, mais je sais pas qu'est-ce que c'est.
Si on voit nos frères, en fait, ils parlent à ces conditions, nous-mêmes, on a, en tout cas, les membres de l'asso, je crois, Idriss, il faisait partie des personnes qui ont travaillé dans cette condition pénible, bah ouais, ça nous dit, en fait, il n'y a pas de justice, en fait. En plus, c'est des personnes, des fois, on dit, vous n'avez pas de droit de travail, vous n'avez pas de... On donne pas de papier, mais ils se trouvent en même temps exploités dans le champ agricole.
Peut-être deux choses aussi à noter. La première, c'est la question de la pénibilité qui revient, que ce soit sur les questions de chaud ou de froid intense et en fait de conditions extrêmes, et que finalement, en fait, souvent, dans les conditions de travail, on n'évoque pas les gestes et les postures à avoir, surtout quand il y a des grosses charges ou en fait l'usage des pesticides ou en fait les aléas climatiques, que ce soit des fortes températures ou des très faibles températures ou même des intempéries, et qu'on voit qu'en fait les gens sont obligés de travailler en fait en constat. Les gens font les frais dans leur santé. Et je pense que le deuxième point sur lequel je voulais venir, c'était sur questionner la saisonnalité finalement, puisqu'on appelle ça des travailleurs saisonniers. Et en fait, finalement, on voit qu'en Bretagne particulièrement, mais même ailleurs, les gens alternent entre culture de plein champ et culture en serre et de ramassage de fruits ou de légumes. Et en fait, on voit que ça continue toute l'année et qu'il y a des formes de circulation entre des personnes qui vont travailler dans l'ostréiculture, dans la tomate, pour ensuite aller faire du coco de Paimpol. Et qu'en fait, on voit que plein de gens sont obligés d'être itinérants, finalement, dans plusieurs structures, parce que déjà d'une, mais on y reviendra après, la question locative, où en fait, il n'y a pas d'accès au logement pour les saisonniers agricoles, même français. La précarité est encore plus grande pour des personnes qui, du coup, ont pâti de séjour ou sont plus ou moins déboutées de l'asile ou, ou encore en centre de demandeurs d'asile. Et qu'on voit qu'en fait, tout ça cumule et favorise une emprise plus grande du patronat local qui profite en fait de ces fragilités dans les parcours des gens.
Eh bien, je propose qu'on écoute justement sur cette question du logement, Ibrahima Diallo.
Moi, je voulais juste savoir comment ça se passe dans le camping que tu parles et les conditions de travail. C'est comment ça se passe, quoi.
Oui, par rapport aux conditions de logement dans le camping, moi, j'ai observé deux campings. Un camping privé et le second est un camping municipal, donc public. Donc dans le camping, moi j'ai passé un mois dans le camping pendant ma première année en Bretagne, dans le camping privé quoi, qui se trouve à Pommery-Jolie. Donc par rapport aux conditions de logement des saisonniers, ce qui est frappant, en fait, on a deux espaces. On a un espace saisonnier et un espace vacancier, espace camping, c'est-à-dire un espace réservé aux vacanciers, aux clients. Donc il y a une certaine barrière végétale qui sépare les deux espaces. On a les tentes des saisonniers qui sont devant cet espace-là qu'on peut voir en fait. C'est comme s'il y avait deux mondes finalement. Ils habitent dans la tente, donc les tentes qui sont alignées comme ça en fait devant cette haie, et derrière la haie on peut voir les toits des mobile homes. Des vacanciers. Voilà, des vacanciers. Ce qui fait qu'on a deux mondes, on a deux espaces qui sont séparés par une haie. C'est ça qui m'a frappé moi-même quand j'ai vu ça. Donc, on peut donner plusieurs raisons pour expliquer cette mise à l'écart, finalement, des saisonniers. Peut-être qu'on peut dire que leur présence dans le camping fait tâche dans le paysage. Mais ça aussi, on peut trouver beaucoup d'explications pour rendre compte cette réalité un peu qu'on pourrait décrire comme une ségrégation, cette division de l'espace en espace des saisonniers et en espace réservé aux vacanciers. Quand on regarde aussi un peu, on creuse le sujet, on se rend compte que cette ségrégation dont je viens de parler est liée parfois à la situation précaire des salariés agricoles. Dans les campings, on les juge, que ce soit les propriétaires ou bien même les femmes de ménage. Quand on tend l'oreille, ce qu'on entend, on dit souvent que ces salariés agricoles sont des gens qui n'ont rien, qui n'ont un rond, qui n'ont pas de rond, qui n'ont pas d'argent en fait. Donc ce sont des gens qui sont sales, qui font beaucoup de bruit, donc des stéréotypes raciaux qui reviennent dans les discours de la part des propriétaires de campings. Du coup, il faudrait protéger le corps social de ces gens qu'on peut juger un peu néfastes. Et face à l'afflux des saisonniers qui arrivent pour trouver un logement dans le camping municipal, ils ont mis en place un quota de 5. Finalement, ils ont retenu que 5 saisonniers.
Le prix du logement, il est décompté de vos salaires ou c'est vous qui le payez à côté ?
Ça peut dépendre des campings. Mais par exemple, dans le camping municipal où moi j'ai logé, c'est à l'arrivée en fait. Ça peut être décompté du salaire, mais aussi on peut le payer au moment de notre entrée dans le camping.
Ici, avec Ibrahima Diallo, on commence à nommer explicitement la question du racisme, qui va de pair avec l'invisibilisation des ouvriers agricoles.
Ouais, moi je trouve que c'est assez marquant, parce que sur la question du camping, c'est hyper marquant, parce que c'est un endroit auquel, en tout cas dans les discours blancs, dans les expériences je sais pas, des personnes blanches en France, le camping, c'est vraiment pas la représentation que t'en as liée au travail saisonnier. Il parle d'ailleurs, Ibrahima Diallo, de ségrégation. Et je pense que c'est un terme hyper marquant, parce que c'est un terme marquant évidemment en termes d'expérience sociale, raciale, mais aussi en termes d'expérience spatiale. C'est-à-dire le camping, c'est un lieu qui en fait est ségrégué. On met les travailleurs saisonniers de côté pour pas qu'ils soient visibles. On instaure des quotas dans le camping municipal. C'est intéressant aussi parce qu'il dit qu'il y a des mêmes logiques raciales, mais qui ne s'expriment pas de la même manière. Dans le camping privé, la logique raciale, c'est beaucoup de stigmatisation, beaucoup de préjugés raciaux, comme il dit. Et dans le camping municipal, ils instaurent des quotas. C'est des logiques différentes, mais qui montrent à quel point ce n'est pas simplement les lieux d'agriculture qui sont ségrégés et dans lesquels il y a une division raciale. Ça contamine, en fait, tout l'espace rural. C'est les lieux où on habite qui sont ségrégés, c'est les manières dont on se déplace. La question raciale, elle ne peut pas juste se cantonner à la question du lieu de travail, parce qu'en fait, elle irrigue et elle transforme vraiment tout l'espace rural autour, quoi, tout le territoire.
C'était Dofelafa de Bangueziwe Mabandla.
Il y a d'autres types d'émergement que le camping pour les ouvriers agricoles. Idriss, tu avais évoqué le fait qu'on a besoin d'un réseau pour trouver un logement. Comment ça se passe quand on arrive en Bretagne et qu'on a éventuellement un contrat et qu'on doit trouver un endroit où dormir?
Déjà, ce n'est pas facile en Bretagne parce que moi, j'étais arrivé fin 2016 avec le démantèlement de Calais. Et en arrivant, en fait, directement, il y a une manifestation qui était forte contre, en fait, ils n'ont pas envie d'avoir des migrants à l'agneau. Et du coup, là, on a des collectifs, Jamais sans toit, qui essaient de faire des cagnottes pour loger un peu les familles. Mais pour les personnes individuelles, adultes, ce n'est pas facile. Il y en a qui arrivent à trouver se loger avec des collègues et voilà, passer les 6 ans. Et il y en a qui se trouvent dans la rue. Et les agriculteurs, c'est pas comme ils ont un réseau qui essaie de contacter les gens qui viennent comme ça pour travailler. Après, ils lui disent, bah oui, mais essayez de vous trouver quand même un logement et moi, je peux pas vous loger. Et voilà. Donc, parce que j'ai eu aussi à un moment, il y a des gens qui sont arrivés comme ça à la gare qui m'ont dit, ils fournaient, en fait, parce qu'ils étaient orientés par quelqu'un qui disent que oui, moi, je connais des assos et peut-être que je pourrais trouver un logement pour des gens. Moi, je me suis trouvé comme ça avec des gens à 18h. Il fait nuit, l'hiver, du coup, je ne sais même pas comment faire pour ces gens-là, quoi.
le démantèlement de la jungle de Calais a été un moment de bascule, on va dire, sur les politiques publiques, sur les questions des demandes d'asile, parce que, en fait, les CADA, qui étaient une réalité urbaine en grande majorité, là, on voit que c'est un phénomène qui va s'implanter massivement en ruralité, d'ailleurs souvent avec du bâti qui est de très mauvaise qualité, parce que c'était notamment des anciens hôtels Formule 1 qui étaient récupérés, et on voit éclore une sous-traitance de l'État de ces structures-là, parce qu'on a vu plein de structures comme Adoma et autres, etc., exploser et être beaucoup plus présents en ruralité, et avec du coup des équipes qui suivent, mais aussi avec du coup beaucoup de gens qui se retrouvent déboutés de l'asile, alors qu'en fait ils ont connu que ces espaces-là depuis leur arrivée pour certains ou certaines, et ce qui fait qu'après, voilà, c'est sur la recherche de travail, c'est aussi ça qui favorise de la précarité et de la captivité dans le travail, malheureusement. Et peut-être, oui, et pour la question aussi de la division raciale du travail, c'était des choses qui sont très documentées, notamment dans le BTP ou dans le ménage, mais que sur la question du travail ou des ouvriers agricoles, il est quand même très invisibilisé par ce narratif-là, porté notamment par la coordination rurale et la FNSEA, qui serait que les travailleurs de la terre, ce sont les exploitants agricoles. Or, en fait, par l'enquête et par ce travail-là, ce qu'on voit, c'est que c'est massivement des ouvriers qui font ces tâches-là, qui font vivre cette agro-industrie et qui, en plus, pour en majorité, sont étrangers.
Moi, je veux parler juste de l'État français et des politiques français, parce que n'attends que tu n'as pas le papier français, t'es obligé d'aller faire travailler que t'as pas envie de faire. Ils sont obligés de le faire parce qu'on ferme, même avant, des gens, ils ont des solutions d'avoir un papier quand ils demandent d'asile. Et là, actuellement, d'asile, ça fonctionne pas. Et des gens, ils sont plus en plus déboutés de demander d'asile parce que même si tu demandes, on te donne de quitter sans justificatif. Malgré avec toutes ces difficultés, ils sont quand même essayé de rester de faire parce que ils sont pas là pour eux-mêmes, ils sont là pour eux et pour la famille. Et comment ils vont faire pour vivre leur famille? S'ils disent que okay, l'État français me bloque, que je n'arrive pas à trouver un travail, je n'arrive pas à trouver le papier, donc je vais rester dormir dans la rue et ça ne peut pas nous faire avancer. Donc ils sont obligés d'aller faire ce boulot. Et nous, en tant que nous-mêmes, certains de nous qui ont passé par ce parcours, et certains qui ont vécu dans ce pays, leurs parents qui ont vécu le même parcours, et eux-mêmes qui ont né dedans, qui voient c'est le même système qui continue, ça grandit, sans dépenser, ça peut ramener même des suicides. Et comment on peut vraiment essayer de voir, de caler tout ça pour que ça n'aille pas plus loin? On sait que l'État il est toujours impuissant, parce que voilà, ils arrivent toujours à trouver une solution pour nous bloquer et pour qu'on n'avance pas. Et comment nous, en tant qu'associatifs, on puisse s'organiser vraiment, trouver une manière qui nous aide à combattre avec ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut trouver vraiment pour qu'on puisse mettre en place, pour aider à ceux qui vraiment arrivent toujours à subir des choses qui ne sont pas méritées.
Tu pointes très bien l'hypocrisie d'État dans ce que tu viens de dire. C'est très clair, il y a une espèce de maintien dans l'illégalité. On rend de plus en plus difficile l'accès au papier, tout en permettant l'accès au travail, ou plutôt en permettant aux exploitants de trouver de la main-d'œuvre. Il y a un exemple concret, c'est l'exemple du transport, où la mobilité des travailleurs qui sont dans les CADA, qui sont dans les campings, est facilitée par exemple, le prêt de mobylette. Je crois que c'est Salé qui nous en parle.
Ah, tu faisais le trajet en scooter chaque fois?
Ouais.
Ok. Et tu y allais tout seul, ou t'étais avec quelqu'un d'autre
Au début, j'étais avec un collègue. Mm-hmm. Lui, il commençait à travailler. Il a travaillé un mois après, il a arrêté. Du coup, après, j'ai pris un scooter à LTC. C'est la ville de la nuit.
Ah, qui donne des scooters?
Ouais.
Si t'as un contrat de travail, c'est ça?
C'est ça, avec un contrat de travail.
Et la ville de la nuit, elle donne des scooters à tout le monde, du coup, tous ceux qui en ont besoin.
Ouais, je pense qu'il faut quelques papiers, je ne sais pas pourquoi. Mais je pense qu'il faut de contrat. Et hébergement, je pense, une caution de 800 euros. Ouais, c'est ça.
Une caution de 800 euros? Ouais. Et du coup, toi, c'est toi qui les as donnés?
Bon, moi, comme j'ai déjà travaillé, du coup, j'ai donné juste mon rêve de mon compte. Et j'ai pris des scooters.
Ok. Et tout le monde vient avec des scooters là?
Ouais, il y en a qui viennent avec des scooters, il y en a qui viennent avec des voitures.
Mais les Français qui viennent avec des voitures alors, parce que les autres, si...
Ouais, la plupart des Français viennent avec des voitures. Pendant l'été, il y a des jeunes étudiants qui viennent faire 3-4 mois. Mm-hmm. Il y en a qui vient avec vélo, il y en a qui vient avec scooter, il y en a qui ses parents qui le posent le matin et viennent le chercher le soir.
Ouais, il y a 2 ans, il y avait fortement besoin des main-d'œuvre. Donc, il y a la mission locale de l'Agnon qui l'a mis à disposition à Navette qui fait écho pendant la saison. C'est une période qui était entre juillet et août. Donc, ça, ils mettent à Navette qui va faire à peu près toutes les fermes pour que les gens puissent aller à travail parce qu'ils savent qu'en fait, les personnes qui travaillent, c'est des personnes qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas de transport et c'est des personnes sans papier. Et en plus, les personnes, quand il aura un contrat, en fait, par la LTC, ça devient un truc, l'agneau transport, un truc comme ça. Et du coup, là, avec le contrat, la personne pourra voir louer un scooter, c'est à 50 euros par mois, en fait. Du coup, ça veut dire qu'en fait, s'il y a ces besoins-là, on sait qu'en fait, les personnes qui travaillent là, c'est des personnes qui n'ont vraiment pas des papiers, qui n'ont rien, du coup, on ne demande même pas leurs papiers. Contrat, oui, du coup, on t'a lu un scooter. 6 ans de coco pampolé, on sait qu'en fait là, il y a besoin des main-d'œuvre. Là, on n'a même pas besoin de déclaration pour les papiers. Donc, même par la préfecture, ils savent qu'en fait, il y a des gens qui travaillent dans cette période, qui travaillent dans les coco pampolé.
Ce qu'on peut dire, c'est que surtout sur cette question de la mobilité, c'est qu'elle est, que ce n'est pas une mobilité qui a objectif de rallier les points de la ville ou en tout cas d'être au service des habitants et des habitantes, mais plus dans une destination du travail. C'est que dans le même temps, on dit aux gens, c'est pas possible de s'inscrire à Pôle emploi parce qu'ils n'ont pas de titre de séjour. Par contre, en fait, Pôle emploi met à disposition des bus.
Je vais rajouter aussi un peu en fait, sur le logement. Tout à l'heure, qu'on n'a pas parlé, mais en fait, aussi à Lannion, il y a un logement dans lequel, en fait, quand la personne a un contrat de travail, même si tu n'as pas de papier, en fait, tu pourras louer en fait, une chambre. Mais si tu n'as pas un contrat, en fait, ce n'est pas possible. Elles savent qu'en fait, contrat, on sait, en fait, tu n'as pas des papiers, on s'en fout. Tu n'as pas des passeports, tu n'as rien, on s'en fout. Tu as de contrat, oui. Donc là, c'est complètement un truc dingue, quoi. Tu sais, en fait, les gens, ils savent, en fait, dans telles conditions, les gens, ils travaillent, ils cotisent, ils font tout. Mais en fait, on ne l'accorde pas leur titre de séjour, en fait. Pour avoir un titre de séjour, il faut que tu payes pendant 2 ou 3 ans. Et là, j'ai dit ça parce qu'en fait, je vois que la personne qui travaille pour avoir un titre de séjour, il faut avoir plusieurs fiches de paye, presque 36 fiches de paye, et poser le dossier et continuer à travailler. Au même temps, en fait, tu ne peux pas accéder à tes droits tant que tu n'as pas ton titre de séjour. Et là, tu as cotisé pour le chômage, pour tout. Ça veut dire que la personne, quand elle aura son titre de séjour, il pourra aller directement au chômage, en fait. Parce que elle a travaillé au moins 3 ans ou 4 ans. Mais non, en fait, c'est à partir de là qu'on pourra compter en fait, combien de jours qu'il y a de travail et combien d'heures de travail. En fait.
Ouais, juste ajouter, c'est vraiment un point sur le rôle de l'État dans la dérégulation du droit du travail ou dans le fait d'accompagner les capitalistes, les patrons à obtenir de la main-d'œuvre. C'est assez délirant, quoi. On est sur déjà un secteur dans lequel il y a très peu d'accès au droit. Le droit du travail devrait s'appliquer, il n'y a rien qui interdit qui s'applique aux personnes étrangères. Le même droit du travail est censé s'appliquer, mais il ne s'applique pas parce que les institutions ne le veulent pas, et puis parce que les gens ne connaissent pas leurs droits, et puisque les rapports sont hyper durs. Mais en plus de ça, l'État, il est tellement prêt à se mettre au service des grands syndicats agricoles, du patronat, etc., qu'il dérégule le droit du travail dans des secteurs où déjà les gens ne connaissent pas le droit du travail, ils n'y ont pas accès.
Et dans une perspective d'ailleurs de concurrence sur les marchés européens ou internationaux, parce qu'en fait les poulets de Prestavic ils sont pas vendus en France, ils sont envoyés au Moyen-Orient et toute la production laitière qui part en lait en poudre pour aller inonder les marchés ouest asiatiques et notamment chinois, même si ces derniers temps c'est moins le cas, mais qu'en tout cas voilà, il y a une logique aussi de si on minimise les coûts de la main d'œuvre et du travail, eh ben on est plus compétitif sur les marchés internationaux pour vendre ses produits. Et que c'est vraiment une logique capitalistique de base.
C'est que moi, je vais rajouter aussi sur les hypocrisies de l'État quand on parle des personnes sans papier. En fait, même quand la personne aura son titre de séjour, ça ne veut dire pas qu'en fait, OK, là, il est libre, en fait, il a assez de droits, il pourra faire ce qu'il veut. En fait, c'est là, il est rentré dans une zone de contrôle. En fait, tu es obligé de travailler dans les mêmes domaines toute ta vie. Tu ne peux pas le changer. Pour le changer, en fait, il faut aller demander encore une autre autorisation de travail pour changer le domaine. Donc, la personne est vraiment prisonnée avec le titre de séjour. En plus, il y a des personnes qui ont, si on voit bien, en fait, les personnes qui ont leur arrêté de jour, c'est des personnes qui travaillent dans le domaine des métiers en tension, qui personne, pénible, personne ne voulait faire. En fait, ce que je fais, moi, j'ai essayé d'enquêter beaucoup auprès de personnes qui ont eu leur titre de séjour, qui se trouvaient qu'au bout de moment, ils ont eu au QTF parce qu'ils ont arrêté le travail pendant quelques mois. C'est pendant le renouvellement de leur titre de séjour de 10 ans, la préfecture n'a pas voulu le renouveler le titre de séjour parce qu'il y a quelques mois qu'ils n'ont pas travaillé, en fait. Pour avoir le carte de séjour de 10 ans, ça veut dire que la personne, déjà, il va avoir le carte de 1 an, qui est temporaire, et puis le carte de 4 ans pluriannuel, et du coup, c'est déjà 5 ans. Au bout de 5 ans, que la personne qui part a renouvelé le carte de 10 ans. Donc, on imagine que la personne qui a eu le carte de 10 ans pour le renouveler, il a déjà, ça veut dire qu'elle a déjà travaillé pendant 16 ou 18 ans, qu'elle a cotisé pour la retraite et pour le chômage et tout. On lui dit maintenant, en fait, bye bye, en fait, là, vous avez bien travaillé, vous avez bien cotisé. Bah, voilà, au QTF et rentrez chez vous. Et du coup, ça, il se trouve dans les centres de tension ou en prison ou chez lui.
Mais du coup, c'est aussi, pour rebondir sur ce que tu disais, Idriss, c'est que finalement, ce qu'on voit, c'est que cette captivité et cette précarité, elle est aussi maintenue par l'État, qui effectivement, en fait, en donnant, en bloquant, parce que là, actuellement, et notamment avec la circulaire Rotaillot, il y a une absence totale de visibilité sur la question des titres de séjour. Mais même avant ça, quand on donne des titres de séjour annuels et qu'il faut renouveler systématiquement, d'ailleurs, il faudrait aussi parler du coût que ça représente, les timbres fiscaux et les délivrances de titres de séjour, parce que c'est une financière énorme gagnée par l'État français, mais que surtout ça précarise les gens. C'est qu'en fait ça crève dans l'œuf toute mobilisation possible, parce qu'en fait si je dois courir après mon titre de séjour maintenant que je l'ai eu, et ben en fait je vais pas essayer de faire des vagues avec mon patron, parce qu'en fait je vais avoir peur. Et en même temps, qu'est-ce qu'on voit qui s'orchestre en parallèle de tout ça? Des rafles, notamment celles de cet été qui ont arrêté 600 personnes et qui, en fait, quand on les vise le matin très tôt, on vise pas des gens qui, en fait, sont oisifs ou ne travaillent pas, etc. On vise des travailleurs et des travailleuses. Donc c'est aussi dans cette logique-là qu'on sent qu'en fait, de la part de l'État, il y a aussi une précarisation, en fait, des ouvriers et ouvrières agricoles, parce qu'en fait, on essaie d'empêcher toute mobilisation, ou en tout cas d'instiguer une peur tellement profonde qu'en fait, elle empêche la mobilisation de contester ses conditions de travail.
Oui, ce que Idriss vient de dire, c'est vrai, parce que même la préfecture, il sait qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dans ce secteur, majorité, qui n'ont pas le papier. Mais ça l'arrange parce que des gens qui travaillent là-bas, c'est la seule solution qui ne vient pas à la préfecture pour une demande. Parce que travailler là-bas, tu n'as pas le fichier de paie. Et si tu n'as pas le fichier de paie, pour régulariser, ça va être compliqué pour toi. Donc tu vas rester 10 ans, 5 ans, 6 ans à travailler dans ce domaine et sans justificatif dans les territoires que vous êtes. Et ça va être très compliqué et toi d'avoir une régularisation là maintenant. À la fin, ils n'arrivent plus à trouver un travail, ils se trouvent dans la rue. Il y a certains qui tombent dans les drogues, pour prendre alcool, prendre beaucoup des cracks et tout, et ils n'arrivent plus à être eux-mêmes.
Pour parler de ce parcours à travers l'administration et l'accès au papier, l'accès au travail, etc., je pense qu'il nous manque une brique, c'est la brique du recrutement. Comment est-ce qu'on est recruté dans un travail dans l'agro-industrie bretonne? Et pour ça, on va écouter Richard nous parler de son histoire.
Moi, j'ai 26 ans. Ouais, je suis né à Côte d'Ivoire, je suis ivoirien. Je suis venu en Bretagne en 2020, je crois. Je suis venu par le biais d'un coach. Quand le gars m'a vu au fait le démarche, il m'a dit bah, « Richard, ouais, tu me plais comme joueur et tout. Du coup, je veux que tu viennes en Bretagne dans mon club. » Je lui dis bah, « En Bretagne, c'est où la Bretagne ?» Je ne connais pas la Bretagne, c'est où Paris. Non, ça, la Bretagne, c'est un peu loin de Paris et tout, mais tu viens et puis tranquille.
Ah, tu joues quel niveau?
Bah, je joue en Côte d'Ivoire en D2.
Ah, en D2. Ici,
Moi, ici, moi, je joue à Paris, enfin, j'étais à Bagneux.
Ah, ouais.
J'étais à Bagneux en R3. Mm-hmm. Non, il y a un coach ivoirien. Quand je suis papier, je lui dis, ouais, j'ai pas de papier, je veux une papier. Il m'a dit, tu dis, si tu n'as pas de papier. Je suis là, ouais. Puis ça m'a plus motivé à venir ici. Sinon, sans ça, en fait, je n'ai pas venu. Puis j'ai joué à l'Orgat. Voilà, du coup, j'ai aidé. Voilà, si j'ai un président qui est comme mon père aujourd'hui, au fait, c'est un blanc, mais comme mon père aujourd'hui.
Il faut avoir des papiers pour jouer
S'il faut un contrat. Pour jouer en pro, il faut un contrat. Il faut les papiers déjà. Après, c'est le club qui peut faire des papiers, mais c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Trop compliqué, il faut mettre les moyens. Voilà, c'est compliqué. Mais c'est en septembre 2020 qu'ils m'ont fait la démarche. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. Donc, je ne sais pas marcher. Sinon, d'être juste là, j'ai eu mon CPC, 6 mois. Et du coup, après, paf. Ah putain, bon matin, j'ai reçu un courrier là. J'étais une enveloppe, là, j'ai la préfecture, j'ai dit merde, c'est pas bon. Je me suis dit merde, c'est pas bon, ça sent pas bon, ça sent pas bon. Du coup, je me suis dit comme ça. Je vois au fait, la préfecture, je me dis, tout le monde, c'est pas bon, c'est OQTF.
Pourquoi ils ont rejeté la demande?
Parce que, soi-disant, quoi, en fait, j'avais pas de, en fait, j'avais pas d'attache ici.
Le foot comme vecteur de recrutement dans l'agro-industrie bretonne, ça paraît étrange comme moyen, mais c'est bien réel.
Disons que le foot, c'est une des filières pour des recrutements. Après, ce serait un sujet en soi, mais il est vrai que beaucoup de gens viennent par le foot. Et il s'avère que même un des membres fondateurs de l'asso était initialement arrivé en Andalousie par le foot et qui finalement s'est retrouvé à travailler dans le monde agricole. Donc on voit qu'il y a des parallèles même au niveau européen sur ces questions-là et qu'on voit que ces filières de recrutement, elles sont diversifiées. Elles peuvent être directement avec des rabatteurs qui viennent dans les villes ou dans les grands centres urbains, soit dans des squats, soit à des personnes qui sont déjà à la rue, ou en tout cas par des liens communautaires, et que c'est comme ça qu'après, voilà, il y a ce système des rabatteurs qui se met en place.
Ça nous amène doucement vers la question de la syndicalisation. On l'a évoqué à plusieurs reprises au cours de l'émission. C'est un des axes de travail, des axes d'action que vous avez tiré de cette enquête.
Non, oui, c'est un élément important, je pense, qui a apparu au cours de l'enquête et des différents entretiens qui ont été faits. C'était la dimension pratique qui naissait de cette enquête. Pas simplement connaître les conditions de travail, c'est qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on se rend compte que ces conditions de travail, elles sont merdiques. Voilà, faire que les gens puissent avoir accès aux droits, c'est un des éléments importants. C'est pour ça que c'est aussi lié ce travail d'enquête, un travail sur un guide juridique qu'on fait pour donner accès aux droits. Et ce guide juridique, on va essayer de le faire notamment des capsules audio en plusieurs langues pour que des gens puissent, que ça puisse circuler par exemple dans des boucles WhatsApp, pour que les gens sachent comment on peut avoir accès à un contrat de travail, comment on peut avoir accès à tout un ensemble de droits, voilà, qui encadrent le droit du travail, quoi. Donc ça, c'est la dimension plutôt pratique de cette enquête, quoi.
Et d'ailleurs, il y a aussi en parallèle un kit d'autodéfense juridique qu'on a aussi créé en parallèle, avec l'idée de se dire que dans un contexte comme on vit actuellement, d'aller solliciter les prud'hommes, c'est aussi une manière de faire reconnaître sa présence et aussi en fait son travail sur le territoire français, premièrement. Et deuxièmement, de pouvoir outiller les gens, ça aussi dans plusieurs langues, et avec l'idée que ça puisse faire effet boule de neige. Parce que aussi, de plus en plus, même si ça reste très localisé, on voit des initiatives démarrer, qu'elles soient syndicales ou associatives, qui en fait essayent de traiter de la question. Je pense notamment à la mission de Médecins du Monde à Bordeaux sur les travailleurs saisonniers dans la viticulture. Je pense aux collectifs informels qui se sont formés autour du piment d'Espelette, parce que là, la même question se pose sur l'accès au logement et aussi des conditions de travail et des conditions de ramassage, aussi de syndicats d'ouvriers agricoles, parce qu'il y a aussi des Français et qui voient que cette question-là est un peu sous-traitée et qui a besoin de la visibiliser et de faire apparaître qu'en fait, les travailleurs de la terre, c'est aussi ces ouvriers et ouvrières agricoles. Et donc voilà, petit à petit, des choses se mettent en place et qu'on se dit qu'il faut pouvoir vulgariser le plus possible le droit du travail pour pouvoir que tout le monde se l'approprie.
Merci pour ce travail énorme que vous avez fait à Lannion il y a presque 2 ans maintenant, dont on a réussi à restituer l'essence. Est-ce qu'il y a des actualités de A4 qu'on peut citer ?
Il y en a 2. La première, c'est de dire qu'en fait, on lance aussi une grosse action de plaidoyer sur une cartographie des abus et des condamnations pour traite d'êtres humains. Et le deuxième volet qu'on développe aussi, c'est l'école de formation politique.
On a constaté, en fait, il y a beaucoup de décalage. Oui, les personnes qui ont fondé l'asso, et la deuxième génération plutôt qui arrive à rejoindre l'asso en tant que personne en fait qui attend l'aide ou qui attend le soutien. Et ça ne plaît pas du tout. Donc on dit y a un grand en fait manque de connaissances par rapport à des questions des personnes qui arrivent sur leur culture. Il y a des logiques systémiques en tout cas ou les enjeux de pouvoir qui sont énormes. On a impacté sur ça, donc nous, on dit qu'on va monter une école politique pour pouvoir en fait amener des formations auprès des personnes concernées par le parcours de l'immigration ou en tout cas les personnes blanches ou des Français qui intéressent en tout cas à travailler avec nous dans le champ de lutte, quoi. Bah, collectif A4, oui, on remercie les personnes qui sont participées de l'enquête. Ça allait Richard, en tout cas Brahim Diallo, Morgan Larche, on remercie énormément. Aussi les personnes qui nous ont formés pendant la première enquête. Tiffaine sur le son, pour la prise de son. Il y a Mathieu et Anna qui nous a accompagnés beaucoup aussi sur la méthodologie de l'enquête politique. On remercie aussi les personnes ici dans le plateau.
Et on peut aussi remercier la Fondation Forum Civique Européen qui nous a soutenus dans ce projet et la Fondation Guérilla qui a été essentielle pour que tout le monde puisse être rémunéré sur ces actions. Et aussi les personnes qui ont joué le jeu de s'entretenir avec nous et qui nous ont fait confiance pour ce projet. Merci.